يا إله الكون قد أسلمت لك.
Comprendre l'islam.
يا إله الكون قد أسلمت لك.
Une émission présentée par Malika Lafer, Kamel Shekat, réalisée par Youssef Nedjimi.
Amis auditeurs, bonjour. Dans Comprendre l'islam, aujourd'hui nous parlerons de l'image de Dieu dans l'expérience religieuse, dans les différentes confessions qui existent. Nous parlerons donc du paganisme, cette religion, les paganistes croyant en Dieu, mais considérer leurs idoles comme des intercesseurs.
Absolument.
Oui.
C'était l'idée répandue un peu avant que le prophète alayhi salatu wasalam ne reçoive la révélation, qabl al-bi'ta, et les Arabes païens, tout d'abord on appelle paganisme une période anti-islamique dite en langue arabe asr al-jahiliya. Alors ces païens croyaient en Dieu, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah, si tu les interroges qui a créé les cieux et la terre, ils diraient assurément c'est Dieu.
Oui.
Mais quand on les interrogeait au sujet même de ces idoles, Manat, Hubal, Lat, Uzza, etc., ces gens-là répondaient que ce n'était là que des intercesseurs. Innama nataqarrabu biha ila Allah zulfa. Nous croyons en Dieu, mais nous utilisons ces idoles pour nous rapprocher un peu plus de Dieu.
Oui.
Et c'est pour ça que le Coran rapporte que ces gens-là ne croyaient en Dieu qu'en faisant preuve d'associationnisme.
Oui.
La yu'minu aktaruhum billahi illa wa hum mushrikun.
Oui. Mais les chrétiens donc ont appelé paganisme le polythéiste, donc le polythéiste antique à la fin donc de l'Empire romain, auquel les gens de campagne restèrent longtemps fidèles. C'était pour les chrétiens, c'était une façon de c'était du polythéiste.
Bon, pour les tout premiers chrétiens, était considéré comme païen celui qui ne croyait pas en Dieu, tout simplement, ou celui qui adorait des divinités qui appartenaient aux mythologies anciennes. Avec le développement du christianisme, le christianisme a connu, les textes ont été remaniés, ils ont subi beaucoup d'altérations, et à partir de là, on a commencé à traiter de païen ou d'hérétique toute personne qui n'embrassait pas la foi chrétienne, tel que déterminé par les premiers conciles, notamment le concile de Jérusalem qui a eu lieu en 47. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le christianisme a été remanié essentiellement par Paul de Tarse.
Oui.
Il était l'un des ennemis jurés du Christ, il est devenu l'icône même du christianisme. Chez les chrétiens arabes, quand on parle de Paul de Tarse, on dit « Nabi Yubuls », c'est-à-dire on le compare carrément à un prophète. Paul de Tarse a longtemps persécuté les chrétiens. À un moment donné, il aurait vu dans une sorte d'apparition de lumière, etc., il aurait entendu et vu le Christ, alayhi salam, qui lui aurait donné, enfin, ou insufflé des commandements, etc. Et à partir de Paul de Tarse qu'on a commencé à parler de la Sainte Trinité, Père, le Fils et le Saint-Esprit, etc. Et cette foi a été adoptée par l'Église officielle et par l'Empire romain, quand ce dernier est devenu chrétien, ou bien quand ce dernier a adopté la religion chrétienne comme religion d'État. À partir de là, toute personne qui n'adhérait pas à cette foi officielle était considérée comme hérétique. Même ceux qui voulaient revenir à la doctrine initiale de Jésus, alayhi salam. Donc c'est la définition du païen ou de l'hérétique, ou du paganisme, va différer d'une religion à une autre et d'une période à une autre.
Historiquement, on peut dire que Rome fut le bastion du paganisme, et ce jusqu'à une période très tardive.
Absolument.
Oui.
Même avec la foi chrétienne, la religion chrétienne telle qu'adoptée par l'Empire romain a fait bon ménage avec de vieux mythes païens. Le culte d'Osiris va être transposé dans cette doctrine, dans cette foi, dans la fameuse résurrection, Jésus qui se sacrifie pour sauver l'espèce humaine. Mm-hmm. Et puis cette fameuse Sainte Trinité aussi, Père, Fils et Saint-Esprit, n'est en fait qu'une reprise de la vieille Trimurti hindouiste, Brahma, Shiva et j'en oublie d'autres. En tout cas, on trouve dans différents mythes anciens, chez les hindouistes, les égyptiens, etc., cette sorte de Sainte Trinité, mm-hmm, qui a été reprise par le christianisme.
On dit que le rapprochement païen-paysan est donc erroné, c'était plutôt de la religion des empereurs, des riches.
Ce qui se passe, ce qui s'est produit à certains moments de l'histoire, c'est qu'on a utilisé la religion pour préserver des intérêts. Les Romains ont instauré un certain nombre, ou bien les empereurs romains ont admis un certain nombre de pratiques religieuses qui faisaient bon ménage avec le culte même de l'empereur, oui, qui était élevé pratiquement au rang de ce que nous connaissons actuellement sous l'appellation de pape.
Oui.
Le souverain pontife, le premier souverain pontife, c'était l'empereur de Byzance.
Oui.
Et même dans les vieilles religions, les grands féodaux ont fait en sorte que les hommes de religion ou les religieux qui étaient pratiquement à leur service ou bien qui faisaient bon ménage avec eux avaient des rangs très très élevés. On a toujours été dans une forme de théocratie, c'est-à-dire un pouvoir dicté pratiquement ou soi-disant par Dieu qui arrangeait l'affaire d'une couche de la société qui était riche, qui possédait des terres, enfin les féodaux tout simplement.
Alors on fait quelque peu de l'histoire et pas l'apologie donc de ce matin du paganisme. Alors on dit qu'il prenait bien évidemment le respect de certaines valeurs et que peu d'historiens ont été capables de donner une définition sérieuse sur le paganisme.
Bien sûr, parce que la notion elle-même va différer selon la manière dont on perçoit la religion, selon la manière dont on perçoit Dieu aussi. Et c'est à partir de là que ça va changer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toute forme de paganisme ou toute forme de déviation obéit à un processus très très lent. Si nous prenons par exemple les Arabes de l'ère pré-islamique, alors tout juste après Ibrahim alayhi salam et Ismaïl alayhi salam, les gens adoraient un Dieu unique. Les historiens comme par exemple Ibn Hisham ou bien Ibn Ishaq rapportent qu'à un moment donné il y a eu une grande période de sécheresse et cette période de disette a pratiquement forcé les gens à quitter l'enceinte même de la Kaaba. Les villages immédiats ont été obligés d'aller ailleurs pour une vie meilleure. Par amour de cette Kaaba, de cette terre sainte, des gens ont pris avec eux des pierres, des morceaux de pierre en guise de souvenir. Et la nostalgie a fait qu'avec le temps, ces expatriés ont commencé à sortir leurs pierres, par exemple, pendant la période du pèlerinage.
Oui.
Ensuite, on a commencé à simuler le tour, tawaf, autour de la Kaaba, autour de ces mêmes pierres. Et c'est ainsi que le fétichisme, l'ouataniya, parce qu'il y a une certaine différence entre le fétichisme et l'idolâtrie. Le fétichisme, c'est le fait d'accorder une certaine valeur à des objets qui deviennent des objets de culte, alors que l'idolâtrie, c'est le fait de vouer une adoration totale à une divinité, à Sanam, à une statuette que l'on construit à partir de pierre ou de bois ou de n'importe quel matériau existant dans la région même où se développe l'idolâtrie. Donc le fétichisme a pris naissance. Et puis par la suite, vers 250 de l'ère chrétienne, un certain Amr ibn Luhay, qui était de la tribu de Khuza'a, qui était un riche commerçant, lors d'une de ses expéditions commerciales, en passant par la région de l'Belqa, qui se trouve actuellement au nord-est de la Jordanie, il a vu des païens en train d'adorer des divinités, des statuettes. Et c'est de là qu'il aurait, selon certaines sources, ramené le fameux Hubel.
Oui.
Et l'aurait introduit dans l'enceinte même de la Kaaba.
Est-ce qu'ils avaient besoin d'intermédiaires? Bon, Dieu, ils y croyaient en Dieu, mais en même temps, ces idoles qui étaient des intercesseurs, est-ce que l'homme avait besoin
L'homme n'a pas besoin de ça. Mais vous savez, quand la déviation commence à prendre de l'ampleur, ce que nous perdons en qualité, nous allons tenter de le remplacer par des enfin on va adopter une politique de substitution.
Oui.
Il y a un adage qui dit la science c'est comme de la confiture, moins on en a plus on étale.
Oui.
Il en est de même dans tous les domaines de la vie. Moins vous faites dans le bon sens, plus vous allez faire dans le mauvais sens.
Oui.
Et on va avoir tendance à embellir les choses, à faire des additifs par-ci, par-là, pour donner un tant soit peu de crédit à ce que nous sommes en train de faire. Les païens de l'époque, comme le culte même de Dieu avait pratiquement disparu, il n'y avait plus de loi religieuse, il n'y avait plus de loi céleste qui régissait les peuples. À partir de là, on a commencé à utiliser des substituts. Alors, on façonne, on forge un semblant de religion pour maintenir une certaine cohésion. Et cette cohésion était en faveur des gens riches. Elle était beaucoup plus en faveur des notables de la Mecque qui recevaient chaque année des pèlerins, ce qui était une manne financière pour les gens de l'époque.
Mmh.
Et donc, à partir de là, on a commencé donc à façonner un certain nombre de pratiques religieuses qui faisait l'affaire des gens de l'époque.
En tout cas, le paganisme a été combattu par les trois religions. Ça,
c'est clair. Tous les prophètes l'ont combattu.
Oui.
Et puis, pour nous musulmans, quand nous parlons de Moïse alayhi salam ou quand nous parlons de Jésus alayhi salam, ce ne sont pas ces deux nobles prophètes que nous attaquons. Ce n'est même pas les chrétiens ou les juifs d'aujourd'hui que nous attaquons. Nous ne faisons qu'un constat sur les dérives qu'ont connues les religions qui nous ont précédés à travers l'histoire.
Mais le paganisme aujourd'hui, pour terminer, il a réapparu dans les pays en Irlande, dans les Pays-Bas, au Danemark, comme une philosophie.
Il est là le problème. Si vous n'adorez pas Dieu comme il se doit, vous allez avoir tendance à remplacer, je dirais, ce vide entre guillemets, parce que nous sommes censés adorer Dieu par innéité, ce que nous appelons en langue arabe le fitra. Et ce vide spirituel va pousser les gens à chercher une certaine forme de philosophie qui va plus ou moins donner une certaine harmonie entre le temporel et le séculaire.
C'est-à-dire que timidement,
ou bien entre le temporel et le spirituel.
Je disais que timidement, il l'a quelque peu survécu. Merci,
absolument.
Merci, M. Chekat, et à vendredi prochain.
Who is the Lover?
Allah.
Who is Ar-Rahman?
Allah.
Who is Al-Mannan?
La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah.
محمد رسول الله
لا إله إلا الله
محمد رسول الله
الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
All praise is due to the one and only He is the master of all creation.
All praise is due to the one and only. He is the master of all creation.
He's the sustainer and the maintainer of the whole universe.
La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return.
محمد رسول الله
لا إله إلا الله
محمد رسول sent to guide us, Rasulullah.
Allah.
He sent to guide us, رسول الله الله
الله
هو ذا الخبير
لا اله الا الله محمد رسول الله محمد is the messenger to Allah is our return لا اله الا الله محمد رسول الله محمد
محمد رسول الله
لا اله الا الله
محمد رسول الله Anyone who fails to see all the signs of his existence that he has spread around.
Anyone who fails to see all the signs of his existence that he has spread around
will be completely blind, walking in the desert sand, having no peace of mind. Who is the loved one?
Allah.
Who is Al-Majid?
Allah.
Who is Al-Hamid?
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah.
رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله